Europe 1, il est 8h.
Si un salarié est heureux, il va le transmettre au client. Si le client sent que la boîte se sent bien, il sera plus à même de venir chez nous.
Tout le monde va vouloir venir chez eux. Une entreprise où l'on travaille 32 heures par semaine et sur 4 jours seulement, les week-ends vont s'allonger. LDLC promet des embauches et aucune baisse de salaire. Quel contraste avec Air France qui ferme des sites entiers comme dans le Finistère où l'on ne comprend pas qu'on puisse supprimer des postes alors que l'État s'est porté garant pour un prêt à la compagnie.
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver. Pas pour tuer.
Dans ce journal, Volkswagen, BMW, Ford, Fiat Chrysler, Renault, Nissan, PSA. Additionnez tout cela à la bourse et vous n'atteindrez même pas le poids de Tesla, nouveau titan, 207 milliards de dollars. Une diplomatie franco-turque brouillée et une gestion brouillonne de l'OTAN. Vincent Hervouet va nous éclairer sur les graves dissonances au sein de l'Alliance Atlantique. Et puis, outre leur musicalité irréprochable, quel est le point commun entre Macumba, les démons de minuit et Despacito? Eh bien, les textes de ces tubes de l'été.
Des paroles légères, qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirts, de vacances aussi.
À 8h15, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, au micro de Sonia Mabrouk. 8h30, une filière où règnent les emballages à usage unique. La livraison de repas peut-elle arriver au zéro déchet? Vos témoignages sur le hashtag Europe 1, Laura Châtel de l'association Zero Waste France avec nous. 8h45, la revue de presse de Nicolas Canteloup, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Travailler moins pour gagner autant. Ce n'est pas le lifting d'un slogan politique ni une proposition de la Convention citoyenne. Non, c'est pour de vrai une semaine de 32 heures dans une entreprise de commerce sur Internet. Tout ce qu'il y a de plus ancré dans l'économie.
LDLC, basé à Lyon, 900 salariés. Si on fait le compte, ils auront désormais 3 jours de week-end par semaine. Et au passage, Jean-Luc Boujon, cette entreprise embauche.
Vivement qu'on signe cet accord, s'est exclamée la déléguée CGT lorsqu'elle a appris la nouvelle. C'était il y a quelques jours, quand Laurent de la Clergerie, PDG de LDLC, a dévoilé son projet. Instaurer pour ses 900 salariés la semaine de 32 heures payée 35, le tout sur 4 jours.
J'ai plaisanté en l'expliquant aux salariés en disant « je vous garantis, j'avais pris aucune substance illicite, j'étais dans mon état normal ». En fait, je pense qu'au final, je vais m'y retrouver, que la boîte va s'y retrouver, parce que les gens vont être heureux. Comme ils vont être bien, ils vont être plus efficaces. Si un salarié est heureux, ça s'entend. Si un salarié est heureux, il va le transmettre au client. Si le client sent que la boîte se sent bien, il sera plus à même de venir chez nous.
Une manière pour ce patron de concrétiser sa philosophie du bien-être au travail, mais s'il peut le faire, c'est aussi parce que LDLC se porte bien. Avec des bénéfices de 16 millions cette année, les salariés comme Kevin sont aux anges.
C'est vrai que quand on le dit dans notre entourage, ça fait un petit peu sauter de la chaise. Ça montre une vraie confiance de la part des dirigeants envers les salariés, en notre autonomie à faire notre travail. Socialement, c'est un gros gain pour nous.
Cerise sur le gâteau, la société devrait embaucher pour compenser cette baisse du temps de travail plusieurs dizaines de personnes. Une situation incroyable, surtout en ces temps de crise économique. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La crise économique qui a très durement frappé l'industrie aéronautique. On parlait ici même hier d'Airbus. De son côté, Air France KLM fera ses annonces demain. Mais le chiffre de 7500 suppressions de postes d'ici 2 ans est déjà connu.
On sait que les lignes régionales de la filiale HOP sont sur la sellette avec des conséquences au sol, comme à Morlaix, où un centre de maintenance et d'entraînement au pilotage pourrait disparaître, François Coulon.
800 personnes travaillaient sur le site de Morlaix il y a 7 ans. Le centre de maintenance devrait être purement et simplement rayé de la carte d'ici à 2023. 276 suppressions de postes, un cataclysme dans une ville de 15 000 habitants dont le taux de chômage dépasse les 20%. Benoît, 33 ans d'ancienneté.
On est en colère, c'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise, saboté qu'en fait. C'est vraiment une catastrophe. Ici, il y a des gens qui travaillent en famille, il y a le mari et la femme. Trop jeunes pour avoir des retraites, trop vieux pour trouver autre chose. Et puis dans le milieu ici, aéronautique, il n'y a rien. Obligé de partir. Les gens sont effondrés. Moralement, c'est pas facile à vivre. On fait notre travail de deuil entre nous. On va perdre quelque chose de gros. Une famille, c'est un déchirement.
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère?
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver, pas pour tuer.
On ne se laissera pas faire, clame le nouveau maire socialiste de Morlaix qui demande au Premier ministre un rendez-vous express et appelle à une mobilisation de tous les élus bretons pour sauver la plateforme. Morlaix, François Coulon, Europe 1.
Dans ce contexte, l'insolente santé d'un constructeur automobile américain. Ses voitures sont silencieuses, mais cette entreprise est ronflante en bourse. Tesla, la marque qui ne propose que 3 modèles, très chers, tout électriques, vaut plus de 200 milliards de dollars sur les marchés et vient de dépasser à ce titre Toyota.
Bonjour Flavien Neuvy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Cette valorisation d'une entreprise qui vend nettement moins de voitures que les groupes historiques du secteur, est-ce que ça a du sens?
Ouais, c'est incroyable quand on refait un peu l'histoire de Tesla, on se rend compte que c'est une succession de pronostics sombres démentis. C'est-à-dire que quand Tesla s'est lancé, d'abord créer un constructeur en partant de zéro, personne n'y croyait. Et en plus, Elon Musk a décidé de créer un constructeur sur le segment de l'électrique à une époque où personne ne croyait à l'électrique. Et aujourd'hui, même s'il vend évidemment beaucoup moins de voitures que les grands constructeurs mondiaux, il a quand même réussi son pari de produire de façon industrielle des modèles électriques qui coûtent très cher.
Donc réussite très forte, on le comprend, mais est-ce que ce n'est pas une bulle finalement ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que ceux qui achètent aujourd'hui des actions Tesla sont des gens qui font un pari sur l'avenir. Et c'est vrai que quand on voit les réglementations, notamment en Europe, tout pousse vers l'électrification des véhicules. Donc on peut dire que l'avenir de la voiture électrique semble assez prometteur. Et de ce point de vue-là, Tesla, qui est le seul constructeur mondial à être 100% électrique, hein, c'est un pur player de l'électrique, semble avoir un coup d'avance.
Parmi les fournisseurs qui travaillent pour Tesla, on trouve les Français Saint-Gobain ou encore Michelin. Est-ce que cette réussite du constructeur, ça les met aussi dans la lumière ?
Oui, indirectement, sachant que les volumes de Tesla, malgré tout, restent assez modestes. Hein. C'est 20 fois moins de voitures que le top 3 mondial, General Motors, Toyota ou Volkswagen. Mais c'est vrai que c'est bien d'être avec ce constructeur parce que ça donne l'image d'une voiture innovante, en quelque sorte. Et encore une fois, d'un constructeur qui avait un coup d'avance sur l'électrique.
Merci Flavien Neuvy. Merci beaucoup, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, l'invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
Cela fait plus d'un mois qu'on parle de remaniement. Une source à l'Elysée évoque un changement d'équipe avant mercredi de la semaine prochaine. D'ici là, Jean-Rémy Baudeau, on commence à trouver le temps long dans la Macronie.
En apparence, tout est normal. Un influent député qui enchaîne les réunions entre l'Élysée et Matignon le confie. Rien ne laisse penser qu'il y aura bientôt un remaniement. Et pourtant, un nouveau gouvernement est annoncé avant mercredi prochain et cette attente n'est pas sans conséquence. À la santé, l'activité est forte. On est en pleine négociation du Ségur. Mais un conseiller s'alarme. En cas de démission du gouvernement, comment on fait si on n'a pas le ministre pour discuter avec les soignants ? Dans un autre ministère, autre ambiance. L'activité est quasiment à l'arrêt. On gère les affaires courantes, on suit les réformes, mais aucun nouveau projet n'est lancé. Il faut ranger ses dossiers, que tout soit clair pour son éventuel successeur, explique un membre de cabinet. Dans ces périodes, les rumeurs vont bon train, des listes de noms circulent. Franchement, c'est pénible, juge une collaboratrice qui ne sait pas si son ministre est reconduit. En réalité, personne n'en sait rien. Le président est le seul à décider, tranche un proche du Premier ministre. À Matignon, on se prépare d'ailleurs à l'éventualité d'un départ. Certains y avaient déjà fait des cartons au moment des gilets jaunes et n'ont pas toujours eu le temps de les défaire.
Europe 1, il est 8h08.
Merci pour les bébés. Il n'y a plus de glyphosate dans les couches. En tout cas, les relevés de la répression des fraudes sur 32 modèles de couches vendus en France montrent des améliorations très nettes. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Parisien. Aucune substance toxique au-dessus des seuils recommandés.
Si vous avez des lycéens à la maison, ils ont dû transpirer à l'évocation même de ce sigle E3C, les épreuves communes de contrôle continu. C'était la nouvelle formule du bac. Eh bien, ça va rechanger dès la rentrée prochaine. Les détails avec Virginie Salmen.
D'abord, elle change de nom. Terminer ce terme barbare 2-3-C. Désormais, elles s'appelleront sobrement épreuves communes, histoire de faire retomber la pression de l'examen pour les lycéens. Il y avait deux sessions d'épreuves pour les élèves de première, l'une en janvier, l'autre en mai. Mais les professeurs estimaient que faire passer des épreuves dès le mois de janvier, c'était plus du bachotage qu'autre chose et qu'ils avaient moins le temps de faire de vrais cours où on apprend. À partir de l'an prochain, il n'y aura plus de date imposée. Le calendrier sera fixé dans chaque lycée. Mais est-ce que cette souplesse suffira à calmer les profs qui ont participé au blocage de lycée l'an dernier ? Pas sûr à entendre Lisiane Gervais, représentante des proviseurs du SNPDEN.
Je ne sais pas si les enseignants sont vraiment contents puisque eux aussi demandaient la suppression des premières évaluations de première, pour qu'il y ait un vrai apprentissage et à la fin de l'année, on pouvait évaluer.
Les proviseurs, eux aussi, sont pour une suppression pure et simple de ces épreuves en cours d'année. Ils préféreraient garder un seul examen final pour le bac.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La France se retire d'une opération de l'OTAN après la manœuvre hostile de la marine turque.
Et puis un autre pas de deux, mais celui-ci sur les dance floors avec les tubes de l'été que vous aurez bientôt en tête en permanence.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
C'est censé être une alliance, mais au sein de l'OTAN, la France et la Turquie apparaissent clairement comme des amis fâchés.
Oui, Paris réclame une enquête et se retire de l'opération près de la Libye, cette mission qui doit faire respecter l'embargo sur les armes. Vincent Hervouet, tout cela vient de l'accrochage d'il y a 3 semaines en Méditerranée.
Oui, au large de la Libye, le 10 juin, la marine de guerre turque escorte un cargo. Il est bourré d'armes pour ses protégés libyens. Les Turcs se moquent de l'embargo que l'OTAN prétend imposer. Les frégates turques arborent même les couleurs de l'Alliance. Elles s'identifient avec leur code OTAN. Le contrebandier a passé l'habit du douanier. La frégate française qui approche est un navire OTAN, sous commandement OTAN, menant une mission de l'OTAN. Les Turcs pointent leurs missiles. Avec des alliés pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Le comble est à venir quand Paris se plaint. Le secrétaire général de l'OTAN minimise. Jens Stoltenberg s'était déjà fait remarquer en applaudissant la retenue des Turcs quand ils ont envahi la Syrie et chassé nos alliés Peshmerga. Stoltenberg ne refuse rien aux Américains qui ne refusent rien aux Turcs. À coup sûr, son enquête a noyé le poisson.
C'est pour cela que l'Élysée a donné l'ordre de repli.
Oui, c'est la posture gaullienne, on se cabre un pied dedans, un pied dehors. L'Alliance Atlantique repose sur des valeurs, des intérêts communs, et avec Erdogan, on se demande lesquels. La première fois qu'Emmanuel Macron a dit que l'OTAN était en mort cérébrale, les Européens l'ont trouvé irresponsable, c'était en décembre. 6 mois après, le président se répète, démonstration faite. L'ennui, c'est que 8 pays seulement ont soutenu la France, 8 sur 25. L'OTAN est peut-être sénile. L'Europe de la défense est peut-être mort-née. Entre les deux, la France suit son cap, mais elle est seule.
Le regard international de Vincent Hervouet tous les jours à 8h sur Europe 1.
50 000 cas de coronavirus détectés en un seul jour aux États-Unis. Un nouveau record. La Californie interdit de nouveau le service dans les salles de restaurants. Idem dans le Michigan, en Floride, des plages ont été fermées.
Le football, on entendait dans le journal de 7h la position ferme du propriétaire de l'OM, Franck McCourt. Son club n'est pas à vendre. Mais selon Christophe Bouchet, ancien président de l'Olympique de Marseille, si une très belle offre passe, ce sera très difficile pour lui de la refuser, vu les montants qu'il a investis. C'est ce qu'il disait au micro d'Europe 1, Christophe Bouchet, invité il y a une demi-heure.
Nous sommes déjà le 2 juillet. Il y a urgence. Se préoccuper de nos playlists de l'été.
En effet, avec cette grave question, Angèle Châtelier, quels seront les tubes de 2020 ?
Rythme dansant, ambiance de vacances, Habibi de Kenji Girac a ses chances pour devenir le tube de l'été 2020. Car il respecte tous les ingrédients d'un bon tube de l'été, comme l'explique Jean-Marie Potier, co-auteur du livre « Sans un tube de l'été ».
Ça va des rythmes dansants, parce que évidemment l'été on aime danser, on aime faire la fête. Parmi les ingrédients, il y a aussi des paroles légères qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirt, de soleil, de vacances aussi.
Une recette qui avait fait de Despacito le tube de l'été 2017. Premier clip à avoir atteint 3 milliards de vues sur YouTube à l'époque. Lady Gaga n'en est pas là, mais son album Chromatica, sorti fin mai, s'est déjà vendu à 300 000 exemplaires. Son single Stupid Love, techno et dansant, a ses chances pour être le tube de l'été 2020. Mais les tubes de l'été ne sont plus éternels. La musique ne se consomme plus uniquement sur les radios. Avec les plateformes de streaming, l'offre est généreuse. Chacun peut écouter ce qu'il veut et pas qu'un tube.
Bon, le message dans tous les cas, c'est Vamos a la playa.
Un jour, je vous présenterai la playlist de François Geffrier. Un jour, nous aurons le temps, bien sûr. Merci François, c'était le journal de 8h sur Europe 1.